Chapitre 57. 4 octobre 1998, 6h05. 6h du matin. Grand-Duc s'étira dans la Xantia. Il est égaré dans un petit chemin de terre où les touffes d'herbe tentaient de survivre entre les ornières jusqu'à la sortie de Danemarie, quelques dizaines de mètres avant le chalet de Mélanie Belvoir. Mélanie Luisant, plutôt, sa nouvelle identité. L'emplacement de sa planque était idéal. Il pouvait facilement distinguer les véhicules qui montaient de Danemarie, bien avant qu'ils ne passent devant lui. Voir sans être vu, le béaba du métier. Grand-Duc se fit la réflexion que cela faisait des années qu'il ne s'était pas offert une nuit de planque. Cela lui rappelait sa jeunesse, avant le contrat Carville, les nuits de veille devant les casinos sur la côte niçoise ou basque. La Xantia de Nazim était presque aussi inconfortable que les épaves dans lesquelles il roulait à l'époque. Crédule, Grand-Duc attrapa dans la vaste boîte à gants une bouteille thermos de café. Il s'en versa dans une tasse en plastique. Il grimaça au contact du liquide encore brûlant. Il avait le temps. Mélanie Belvoir ne devait rentrer qu'à 9h du matin. Elle travaillait comme infirmière au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard. Elle faisait la nuit. Crédule, Grand-Duc s'était entretenu longtemps avec elle au téléphone avant qu'elle ne prenne sa garde. Il avait enregistré l'entretien, bien entendu. C'était le réflexe minimum à avoir, vu le temps qu'il avait mis à l'attraper dans son filet. Il avait passé ensuite une bonne partie de la soirée au gîte Genevèse à retranscrire leur entretien sur son ordinateur personnel. Puis on avait imprimé un exemplaire. Grand-Duc jeta un coup d'œil sur le siège passager. Cet exemplaire était posé là, à côté, dans une enveloppe. Mélanie Belvoir Luisant n'aurait plus qu'à le signer. Grand-Duc but encore. Le café avait un sale goût de plastique. Combien les Carville seraient-ils prêts à payer pour cette enveloppe? Une fortune, sans aucun doute. Une véritable fortune. Au moins autant qu'un salaire cumulé sur 18 ans. Grand-Duc n'avait aucun scrupule. Les Carville pouvaient payer, ils en avaient les moyens, des moyens illimités. À combien pouvait-il estimer le prix de sa conscience? À un tonneau de billets, celui des Danaïdes? Il se mordit les lèvres, la chaleur du café, la douleur aussi, comme un pincement au cœur. Cette fortune, il aurait pu la partager en deux parts, si Nazim l'avait suivi. Peut-être pas deux parts égales, mais assez tout de même pour que Nazim se l'offre avec Eyla, sa villa en Turquie. Mais Nazim n'avait pas voulu le suivre. Nazim s'était dégonflé ce coup-là. « Rangé, disait-il. Les Carville avaient assez payé, selon lui. L'affaire était classée, terminée. Crédule, Grand-Duc était conscient qu'il n'aurait pas dû hausser le ton. Nazim était un type adorable, mais nerveux. « Je vais aller voir les flics, Crédule. » avait-il menacé. « Si tu ne me fous pas la paix, j'en suis capable. Depuis le temps que ça me ronge. » « Comment ça, depuis le temps que ça te ronge? Qu'est-ce que tu sous-entends ?» Crédule, Grand-Duc avait pris peur. Nazim parlait rarement pour ne rien dire. Grand-Duc avait demandé des explications, des garanties. Puis, tout avait dégénéré. Nazim, le premier, avait dégainé son arme. Crédule, Grand-Duc avait été plus rapide à tirer, c'est tout. Tuer Nazim était la dernière des choses qu'il aurait préméditées. Le reste ne le fut pas davantage. La tête de Nazim qui tombe contre le foyer de la cheminée, les idées qui jaillissent, l'une entraînant l'autre. Pousser un peu plus la tête de Nazim dans l'âtre pour la rendre méconnaissable, l'en retirer, juste le temps de raser ce qu'il restait de sa moustache, de lui enfiler ses habits, ses chaussures, sa montre, pour gagner du temps, au cas où Lily ou Marc joueraient les curieux. Il n'avait pas non plus prévu de tuer Eyla, mais dès ce moment-là, il n'avait plus le choix. Grand-Duc la connaissait, elle serait allée tout droit à la police. Nazim n'avait participé à rien, mais il était au courant pour l'assassinat des grands-parents Vitral, bien entendu, et ce crétin avait dû tout raconter à sa femme sur l'oreiller. Était-ce sa faute si Nazim n'était pas foutu de laisser Eyla en dehors de leurs affaires? Elle lui avait téléphoné la veille, lui avait laissé des messages paniqués. Il avait été contraint de retourner à Paris. 5 heures d'autoroute, de la filer discrètement depuis sa boutique du boulevard Raspail, jusqu'à la butte aux Cailles, puis au bois de Couvray. D'en finir, là-bas, l'occasion était inespérée. Puis de revenir dans le Jura, à 180 à l'heure, sur l'autoroute A39, pour coincer ce facteur, terminer cette affaire. Grand-Duc se força à avaler le contenu de sa tasse. Il grimaça encore. Nazim Ozan, Eila Ozan, ses seuls amis, toutes ces années, abattus, de sa propre main. Quelle dérision. Oui, les Carville pouvaient payer. Il n'avait rien voulu, il n'avait rien décidé, tout s'était joué malgré lui. Un long engrenage, et heureusement désormais, un joli lot de consolation. Mélanie Belvoir l'invitait surprise. Crédule Grand-Duc regarda l'heure au chiffre d'un verre rétro éclairé de la pendule de l'Axantia. 6h15. Il avait encore le temps. Il était sacrément en avance sur tout le monde.